Dans sa conférence, M. Labourdette partira du constat que la formation à l'esprit critique est souvent liée à l'éducation aux médias et à l'information, donc le journalisme, mais que l'expression artistique, par le pas de côté qu'elle permet, l'expression de soi, le risque pris au regard de l'autre, et puis l'espace de confiance nécessaire pour que la création puisse advenir, eh bien cette expression artistique, c'est en réalité un puissant outil d'émancipation qui permet la construction de sa pensée critique, mais au sens positif du terme. Cette conférence a pour objectif de préparer chacun et chacune à l'usage de l'EAC, en tant qu'outil, hein, pour la formation de l'esprit critique, via des propositions philosophiques, des méthodes pédagogiques et puis des retours d'expérience pratiques. La conférence se terminera par un atelier créatif collaboratif, collectif, pour créer ensemble des outils pédagogiques. Et ces outils pédagogiques, cet atelier vous sera présenté en fin de journée dans l'atelier, dans le bilan de la journée. Voilà, bonne journée à tous. Monsieur Labourdette, je vous laisse la parole.
Alors, bonjour. Donc, j'ai apporté quelques... Ah, ça va arriver. Voilà, j'ai apporté quelques livres, et donc je vous inviterai, j'ai une petite bibliographie, à ne pas hésiter à prendre des photos, à sortir votre téléphone et prendre des photos. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. On est là pour ça, et je ne vous jugerai pas pour avoir créé le premier festival consacré à la création audiovisuelle avec téléphone portable en 2005, au moment où les caméras apparaissaient dans les téléphones portables. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le sortir. Par contre, c'est vrai que c'est pas parce qu'on utilise les technologies qu'il faut en être le chantre sans distance critique, précisément. Alors, l'objet de ce moment-là, de ce moment inaugural de la journée d'une heure, c'est finalement ensemble de donner un cadre pour notre pensée aujourd'hui. En fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, alors c'est une journée d'études, c'est une formation, ce qu'on vous propose, c'est de travailler. Travailler, je me permets un petit peu d'étymologie, c'est quoi pour vous l'étymologie du mot travail ? Tripalium, la torture, c'est généralement ce qu'on référence. En fait, le mot travail, il a une racine plus ancienne, c'est la même racine que le mot travel en anglais, c'est le voyage, la transformation. C'est ça le travail. Et je crois que c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Et moi, je vais vous proposer un certain nombre d'outils, un certain nombre de pratiques. Vous allez voir, on va faire des choses un petit peu pratiques même dans ce collectif. Quand on parle d'émancipation, en fait, s'émanciper, c'est penser par soi-même. Donc en fait, moi, je pense à ma manière, je vous partage. Mais on est là pour être dans la controverse. Je crois que c'est hyper important. Et du coup, voilà, on finalement, apprendre, c'est construire sa propre pensée. Alors, du coup, je me permets de commencer. Donc, je donne quelques petites références. Hein, je commence dans la bibliographie et après, je vous proposerai un petit exercice créatif. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre d'Olivier Houdet, « Apprendre à résister ». Qui date de 2015 et il s'appuie sur le travail de Jean Piaget, hein, qui est... Ah ben c'est marrant ça, il est bloqué mon truc, c'est intéressant, c'est comme Bill Gates, vous savez, quand il était mal vu parce qu'à chaque fois qu'il faisait des présentations de Windows, ça buguait. Bon ben maintenant, Bill Gates il présente des vaccins. Donc la résistance cognitive, en fait ce que dit Olivier Houdet, c'est que ce qui nous vient de prime abord, ce qui nous vient par réflexe finalement, ce sont nos a priori. Et que le processus de l'apprentissage, hein, c'est vraiment un bouquin de psychologie cognitive, hein, le processus de l'apprentissage, c'est inhiber ses réflexes cognitifs, résister contre son réflexe initial pour prendre le temps de la prise de distance. Et finalement, parce que apprendre, c'est faire de nouvelles connexions dans son cerveau, en fait. Et ça, ça demande de l'énergie, et c'est pas ce qui nous vient de prime abord. Et donc, évidemment, le mot résister, il est intéressant. La résistance, donc évidemment, il fait aussi des références à la résistance, Seconde Guerre mondiale, etc. Mais résistance aussi à la pensée unique, finalement, que ce soit notre propre réflexe intérieur ou ce qui vient de l'extérieur. Voilà, donc petite référence bibliographique. Sur l'art, parce que éducation artistique et culturelle. Éducation, on vient d'en parler, finalement, c'est résister à ce qu'on s'impose à nous-mêmes, ou peut-être ce qu'on nous impose de l'extérieur. C'est compliqué, ça, dans la posture de pédagogue. Moi, je suis pédagogue, d'ailleurs, je fus fonctionnaire de l'éducation nationale, je ne le suis plus, même si je travaille énormément avec l'éducation nationale. Ah oui, et je voulais vous dire, je suis cinéaste, je suis artiste, j'accompagne le milieu culturel dans l'innovation et notamment sur la question de l'adresse aux jeunes. Dans les salles de spectacle, par exemple, les jeunes n'y vont pas, donc qu'est-ce qui se passe, comment on fait ? Mais je suis aussi pédagogue et du coup je fais le pont en fait, hein, entre la DRAC et la DAC, voyez. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça que je suis là. Donc éducation, on a vu un petit peu ce que c'était, et voilà, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Évidemment, alors vous allez me dire, oulala, là là, Freinet, mais ça c'est de l'éducation nouvelle, enfin nouvelle, elle n'est pas si nouvelle. Finalement, je reviendrai à John Dewey. Hein. C'est un livre d'époque, hein. Il n'est pas facile à trouver, mais c'est super intéressant, c'est des méthodes concrètes de Freinet. Vous savez que Freinet a utilisé l'imprimerie, le cinéma, la radio, il utilisait les outils, et finalement son idée c'était, je donne des outils, et ensuite à partir de ces outils, de ces objets, les enfants vont s'approprier et créer quelque chose pour une finalité, créer un journal par exemple. Hein. Ça c'est intéressant parce que c'est des petits recueils de textes de sa part, et puis ce livre-là de 1987 de Jacques Rancière, que vous connaissez peut-être, Le Maître Ignorant, qui parle du cadre pédagogique. J'y reviendrai un petit peu parce que la pédagogie, bah, elle fait partie de nos sujets, mais je ne vais pas parler que de ça. L'art comme expérience. Alors, John Dewey, c'est un philosophe pragmatiste. Ce livre, en fait, c'est des recueils de conférences. Ce livre, c'est date de 1934. Et la philosophie pragmatiste, elle est pas mal revenue sur le devant de la scène depuis une quinzaine d'années. Elle avait été jugée comme un petit peu naïve. Mais on y revient beaucoup, c'est-à-dire que ce que dit John Dewey, c'est qu'est-ce que c'est que l'art, en fait ? Est-ce que l'art, c'est une œuvre qu'il faudrait admirer dans un musée ? Est-ce que ce serait ça ? Il dit, mais non, en fait, l'art, sa proposition, c'est l'expérience vécue par la personne qui, soit est dans une pratique, soit regarde un tableau, mais il est là, l'art, c'est l'expérience, en fait. Et c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là, parce que si on le voit de ce point de vue-là, finalement, c'est la personne qui revient au centre. Et je crois que ça nous concerne en tant que pédagogue. Ce qui compte, c'est le travail, la transformation, peut-être que les cadres pédagogiques qu'on pose, quels qu'ils soient, et aussi avec l'EAC, va permettre est-ce qu'on va permettre de poser un cadre qui permet de vivre une expérience à partir de laquelle on apprend ? Et aujourd'hui, dans le secteur culturel, et là je sors de la pédagogie pour rentrer dans le monde culturel, des théâtres, des musées, des cinémas, on parle beaucoup d'expérience des spectateurs. Moi j'avais beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans, qui a dirigé l'IRCAM, et puis qui a créé l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou, qui existe toujours. Et lui parlait de, par exemple, une visite au musée. Bah, ok, il y a la visite au musée, mais ce qui est important, c'est l'expérience de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait avant ? Qu'est-ce qu'elle fait pendant ? Et qu'est-ce qu'elle en fait après, en fait ? Et dans le domaine par exemple du web et dans le domaine des GAFAM et tout ce monde numérique que je connais très bien, avec lequel je travaille beaucoup, eh bien on parle d'expérience utilisateur et on parle même de design d'expérience. Et ça a un nom en anglais, je vous donne du jargon, hein, les outils c'est aussi le jargon, il y a un terme que certains d'entre vous connaissent sûrement, UX. UX, ça veut dire User Experience, en fait. Vous allez me dire, oula, on est dans le marketing, etc. Ben oui, je crois qu'on voit bien à quel point les géants du numérique, avec tous les services qu'ils nous proposent des expériences extrêmement personnalisées. Et en fait, ils sont centrés sur nous, en fait, hein, sur l'utilisateur, via la collecte massive de données qui leur permet de nous connaître, ce qu'on appelle le big data. Voilà, je voulais évoquer ça pour donner un petit cadre. Alors, je vais vous parler maintenant de... Michel Serres. Alors, Michel Serres, il est mort récemment, hein, comme vous le savez, et il a écrit ce très très joli livre que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi, Petite Poussette, en 2012. Je fais des captures d'écran en même temps pour regarder. Les Petites Poussettes, c'était à l'époque, vous rappelez, à l'époque, on n'avait pas encore... l'iPhone était sorti. Vous savez, l'iPhone, c'est-à-dire ce téléphone unique qu'on a aujourd'hui, hein, c'est des copies d'iPhone, même si ça ne s'appelle pas iPhone. Avant ça, c'était, vous savez, les petits claviers. Et puis, il parle des Petites Poussettes, c'est les jeunes qui sont extrêmement agiles avec leurs mains. Et ce qui est très, très beau dans ce livre, vraiment, que je vous invite à lire, parce qu'il est à la fois théorique, mais aussi très sensible dans son expression. Vous voyez, c'est très bien écrit aussi. Eh bien, il postule une compétence dans un nouveau milieu. C'est-à-dire que le numérique, parce que vous l'avez vu, moi je parle aussi un petit peu de numérique dans tout ça. Le numérique, c'est quoi? C'est pas un sujet. On ne peut pas être pour ou contre le numérique. On pouvait au début croire qu'il y avait un débat là-dessus, mais non, le numérique c'est un milieu. C'est un milieu d'existence, en fait. C'est comme la nature, hein, c'est comme les frontières, c'est un milieu d'existence et on ne peut pas y échapper. Et du coup, on a sur le numérique une vision souvent un petit peu négative, c'est-à-dire que ça nous enlèverait notre cerveau, quoi. En gros, on deviendrait bête parce qu'on est complètement addict de tout ça. Et justement, Michel Serres, il fait un pas de côté et il essaie de voir les choses autrement, c'est-à-dire de sortir de cet a priori. Et moi aussi, hein, j'ai plein d'a priori. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'au départ, on ne résiste pas à ces a priori. C'est beaucoup plus facile de rester sur ces a priori. Et ce travail est intéressant parce qu'il va montrer toutes les compétences nouvelles, et notamment cette capacité d'accès à la connaissance très rapide. Nous, on peut critiquer ça parce qu'on peut dire, bah oui, mais du coup, on n'apprend plus rien. Si vous voulez, l'intelligence et l'érudition, c'est pas exactement la même chose. Et le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à Internet et à cet accès facile comme ça, c'est exactement le même reproche qui avait été fait à l'invention de l'imprimerie. On le sait bien, hein. C'est-à-dire, ah bah oui, si on imprime des trucs comme ça, bah les gens, ça va galvauder finalement le savoir. Il va plus y avoir besoin d'être sachant ou savant, en fait, hein. Donc c'est un beau livre. Je sais que ce que je dis là n'est pas forcément évident parce que c'est assez normal aussi d'avoir une vision négative du numérique, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'esprit critique. Justement, c'est un peu des a priori d'avoir une vision négative des pratiques numériques. Est-ce que on pourrait s'intéresser aussi aux pratiques des gens? Par exemple, les parents, je travaille beaucoup avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, un psychanalyste qui s'appelle Serge Tisseron, et sur la question des jeux vidéo. Ah là là, mes enfants, ils jouent aux jeux vidéo, ils passent des heures devant les écrans, mais en fait, ils passent des heures devant les écrans, mais peut-être le plus important, ils font quoi, en fait, avec leurs écrans? Parce qu'on n'est pas devant un écran comme ça à rien faire, vous voyez ce que je veux dire? On fait quelque chose et peut-être ça peut être intéressant de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, de jouer au jeu avec ses enfants. Et bien ça, si vous voulez, c'est dans notre posture, en fait, est-ce qu'on est dans le jugement de l'autre ou est-ce qu'on se met en capacité de recevoir, en fait? Et dans la vision de l'autre, en fait, c'est là-dessus que John Dewey avait été jugé, c'est-à-dire qu'il y a une conception positive de l'être humain. C'est-à-dire que l'enfant, bah, tous les enfants, on le sait, ils ont tous envie d'apprendre. Ça n'existe pas, un enfant qui n'a pas envie d'apprendre. Et la vision que l'enfant serait une sorte de petit sauvage qu'il faudrait cadrer, vous voyez, c'est une vision négative, en fait, et ce n'est pas s'appuyer sur le désir et les capacités. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de créativité et de création pendant toute la journée, parce qu'il va y avoir plein d'ateliers créatifs. Alors, je vous propose un petit exercice créatif. Je vais vous proposer, à partir de tout ce qui a été dit là depuis ce matin, de penser dans votre tête à un mot que ça vous évoque, tout ça, votre mot à vous. Donc voilà, essayez de... Je pense au mien aussi, je n'ai pas trouvé encore. Ça peut être poétique, vous voyez, un mot comme ça qui vous vient. Est-ce que tout le monde a un mot en tête là? Ouais. Ok. Et alors maintenant, je vais vous proposer une expérience artistique à la manière de John Dewey. Je vous explique et ensuite on le fait. On va tous, et je le fais aussi, hein, on va tous fermer les yeux et on va, les yeux fermés, on va lever son doigt. Je vous expliquerai après pourquoi je vous propose ça. Et on va écrire le mot dans sa tête. Enfin, on ne le fait pas encore. Hein. Je vous explique. Donc, je ferme les yeux et je l'écris lettre par lettre, mon mot. Voilà. Nous, on en profitera pour prendre une petite photo parce que ce sera mignon. tout le monde avec le... Voilà. Et ce que je vous propose de faire, c'est que vous imaginez quelque chose de magnifique en termes artistiques. Vous imaginez que vous êtes le ou la calligraphe experte, quoi, voyez, et que ça va être très très beau. Je sais pas, il y en a, c'est des couleurs, il y en a, c'est des lettres très fines dans le ciel, il y en a, enfin voilà, vous imaginez en tout cas quelque chose de très beau. Prenez le temps de ça. Donc je vais vous guider, hein. On y va, et puis après je vous dirai quand c'est fini. Donc on se prend 30 secondes, une minute, hein, on peut prendre le temps. Et aussi, chose importante, en fait, on va écrire son mot, mais on peut le réécrire plusieurs fois de suite. On peut repasser sur le trait pour bien l'inscrire, parce que c'est facile à dire, vous voyez, dans votre tête, etc. Mais en fait, c'est un certain travail. En fait, vous savez que le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. En fait, encore une fois, on fabrique des connexions neuronales, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire des connexions qui n'existent pas, ben c'est du travail en fait, hein, ça consomme, donc il faut prendre le temps de ce travail, ça ne se fait pas en deux secondes comme ça. Donc c'est parti, fermez les yeux, levez votre doigt et écrivez votre mot. Continuez, vous pouvez repasser par-dessus. Allez, faites un dernier passage et je vous dirai quand vous rouvrez les yeux. Essayez de vraiment vraiment bien le mémoriser, quoi, de bien le voir, ce mot, et de voir toutes ses couleurs, son épaisseur, sa qualité artistique, esthétique plutôt qu'artistique d'ailleurs. Du coup, ben, tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux. Ok, alors, je voudrais juste, pour prendre la suite de choses qui ont été dites tout à l'heure en introduction, parler du pas de côté. Gardez bien votre mot en tête, hein, parce qu'on va continuer là-dessus, mais je me permets de faire un petit commentaire. Faire un pas de côté, c'est-à-dire penser par soi-même, en fait, hein, c'est comment on fait, en fait, ce pas de côté. Et il me semble que la créativité, c'est précisément le pas de côté. La créativité, c'est faire ce qu'on veut. C'est faire à sa façon. C'est ne pas faire comme on nous dit de faire, en fait. Et elle est là, la créativité. Ça n'a rien à voir avec l'imitation. C'est intéressant, l'imitation, on peut faire à la manière d'eux, faire comme ci, comme ça, mais la créativité, c'est autre chose, en fait, que l'imitation. Et du coup, souvent, alors, je trouve ça très intéressant, l'EMI, éducation aux médias et à l'information, mais souvent, c'est très lié au journalisme, et souvent, on est explicite sur les sujets. Par exemple, on va faire un projet, je sais pas, de prévention de la violence. Donc, on va proposer à des jeunes, par exemple, d'écrire des articles ou de faire des reportages ou des petits films sur la prévention de la violence, des outils de prévention de la violence. Très bien, mais finalement, avec ça, c'est des choses qui sont... Tout est dit au départ, c'est totalement bien pensant. C'est-à-dire, il faut dire exactement ce qu'on attend qu'on dise. Hein. Et puis finalement, on est explicite sur le sujet. Donc, est-ce que ça va enrichir, est-ce que ça va faire prendre conscience de choses alors qu'on est déjà dans le cadre de la prévention de la violence? Peut-être que créer ensemble, faire société ensemble, faire des choses, faire groupe, établir de la confiance entre des personnes, du dialogue à partir d'une création artistique qui n'a rien à voir avec le sujet de la prévention de la violence, c'est peut-être plus efficace, in fine, par rapport à l'objectif de prévention de la violence, apprendre à s'écouter les uns les autres, pour faire quelque chose de singulier et d'inattendu. Vous voyez, donc en fait, souvent, je crois qu'on a des objectifs, mais souvent ils peuvent être trop explicites, vous voyez, et trop premier degré. Alors on le fait, on a coché toutes les cases, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment travaillé? Vous voyez, c'est des questions qui se posent, parce que les jeunes, les enfants, les adolescents, ils sont pas bêtes, hein, ils ont bien compris les attentes de l'institution aussi, et ils savent y répondre, mais est-ce que vraiment, alors, du coup, je vais vous proposer, là, vous allez me dire vos mots, je vais les noter. Les mots que vous avez eus dans votre tête, donc allez-y, je note, prenez la parole, même si on se coupe un petit peu. Allez-y, donnez-moi vos mots, chacun.
Ouvrir.
Comment ?
Ouvrir.
Attendez une seconde, j'essaie de suivre. Ouais. Adresse.
Expérience. Agir. Bien-être. Résister. Innovant. Curieux.
Comment ?
Inventer.
Défi.
Défi. C'est ça ?
Démarche. Penser.
Penser à l'infinitif ou la pensée ?
Conscience.
Partager. Bleu.
Bleu.
Expression.
Création.
Il était déjà peut-être. Énervement. c'est bien dosé de se risquer. On est là pour ça. Tout le monde a dit son mot. Vous avez osé tous et toutes. Ouais. Bon, il y en a qui osent pas, c'est pas grave. j'ai pas pris le bouquin là, mais je sais pas si vous connaissez un préhistorien qui s'appelait André Leroy-Gourhan. Et André Leroy-Gourhan, dans ses études préhistoriques, a compris le lien, alors deux liens en fait, le lien entre le geste et la pensée. Il y a notamment un fameux livre qui s'appelle « Le geste et la parole », c'est-à-dire que on ne pense pas de la même manière quand on agit, quand on fait un geste, ou quand on ne fait pas de geste, en fait. Et il s'appuie sur des travaux préalables pour parler de ce qu'on est en tant qu'être humain. Et en fait, il se trouve qu'on a des mains, d'accord, hein. Il y a peu d'animaux qui, on est des animaux, hein, bien sûr. Il y a peu d'animaux qui ont des mains, en fait. Hein, en tout cas, des mains à pouce opposable, hein, comme on dit. Et du coup, bah, petite poussette, il en parle. Le fait qu'on ait des mains, ça nous permet de saisir de la nourriture, de manipuler, etc. Et donc, on peut apporter la nourriture à notre bouche. Un oiseau, je sais pas, une poule, par exemple, elle a un bec, elle a pas de main. Du coup, elle a besoin d'un bec pour pouvoir saisir des choses, vous voyez. Un chien, il a un museau, et du fait de forme très spéciale, si vous voulez, pour pouvoir se nourrir, eh bien, du coup, ils n'ont pas la parole, en fait. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que c'est parce qu'on a des mains qu'on parle. Sans mains, ben, on aurait des becs, des museaux, des choses, et on n'aurait pas cette capacité de parole. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque entre le faire, la main, la parole et la pensée, en fait. Voilà, donc ça me semblait important de vous donner ça, et du coup, c'est cette question de l'éducation artistique et culturelle et de la pratique artistique, de la pratique créative, elle nourrit vraiment, vraiment la pensée. Je prendrai quelques exemples, bien sûr. Alors, en bibliographie, je voulais vous parler d'un anthropologue anglais, Tim Ingold, qui est, je trouve, tout à fait passionnant. Lui, il est contemporain, il n'est pas mort, lui. C'est pas mal. Et en fait, il parle de la question de l'éducation. Allez, je vous le mets, si ça peut bien marcher. Donc bon, il s'inspire de John Dewey. Voyez, l'éducation n'est pas la transmission d'une génération à une autre d'une connaissance autorisée. C'est une manière d'être présent et attentif aux choses, d'ouvrir des chemins d'essor et de découverte. Donc finalement, pour lui, éduquer, c'est faire une enquête avec ses élèves, en fait. Hein, c'est une autre façon d'éduquer qui va proposer. Alors, avant d'entrer dans d'autres, dans des petits exemples que je vais vous montrer pour que ce soit un petit peu incarné, je finis ma bibliographie. Un autre bouquin de Michel Serres, Relire le relier, plus récent. Alors, ça c'est très intéressant. Alors là, on est plutôt dans la culture scientifique. Qu'est-ce que c'est que la connaissance, en fait? Et ben finalement, c'est, voilà, c'est un maître à penser de pas mal de scientifiques, Paul Feyerabend. Comment on apprend, comment on en vient à des pensées scientifiques, il y a énormément de subjectivité et de créativité aussi dans la science. On le sait bien. Alors, celui-là, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu encore, mais du coup, je l'avais avec moi et je trouve ça important. Ça va me permettre d'annoncer un concept. Ah oui, Jacques Rancière, je vais vous résumer le maître ignorant très rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais c'est un philosophe, il est toujours vivant lui, hein, d'ailleurs, il travaille toujours, il travaille aussi sur la culture. Et puis, pour aller dans le monde de l'art, ça date, Jean Dubuffet, je ne sais pas si vous connaissez ce peintre et sculpteur, Jean Dubuffet, qui était un amateur et qui est quelqu'un qui a donné toutes ses lettres de noblesse aussi à l'art brut, hein, ce qu'on appelle l'art brut, c'est-à-dire des choses qui sont faites par des gens qui ne sont pas forcément professionnels de l'art, et du coup il parle justement de la normativité, en fait, hein, de la culture. Cette question de la norme, c'est quelque chose d'important, et en fait, l'émancipation, l'esprit critique, c'est oser à penser par soi-même, c'est-à-dire sortir de la norme. Mais c'est extrêmement complexe, en fait, de sortir de la norme. Pourquoi ? Parce que si on sort de la norme, on perd sa place sociale. C'est très compliqué. Et a fortiori, tout âge, hein, mais a fortiori quand on est adolescent, qu'on doit construire sa place dans le monde. Donc, c'est pas du tout pour faire de la polémique de front, mais penser par soi-même, c'est un risque social majeur, en fait. Hein. Et on l'a vu, quoi qu'on en pense, hein, avec les deux ans qu'on vient de traverser, ceux qui avaient un discours différent de la doxa, comme on dit, quoi qu'on pense de cette doxa, hein, ont été exclus. On a même fabriqué des boucs émissaires. Ça, c'est extrêmement grave. Quoi qu'on pense, hein, de question de... Vous voyez, c'est pas du tout pour faire de débat, mais ça a été un prix très cher à payer de penser par soi-même dans cette période. Hein. Et c'est, encore une fois, c'est pas pour porter un jugement d'un côté comme de l'autre. Hein. Par ailleurs, tiens, allez, ça c'est un petit livre collectif auquel j'ai participé. Vous voyez le sous-titre « Faire culture de pair à pair », en fait. Hein, c'est comment dans des démarches, donc c'est plein d'exemples. C'est aux presses universitaires de Grenoble, plein d'exemples, on était assez nombreux à contribuer, sur des manières différentes de faire culture. Hein. Et puis, alors, le maître ignorant, que je vous résume très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la thèse du maître ignorant, levez la main. Ok, bon bah du coup ça vaut le coup que je le résume vite fait, mais je vous inviterai à le lire quand même. En fait, Jacques Rancière, donc ça date de 1987, hein, ça date un peu, raconte l'histoire de Joseph Jacotot, qui était un jeune chimiste, alors je le résume très très rapidement, hein, un jeune chimiste qui est envoyé, me semble-t-il, en Hollande pour apprendre l'allemand à des jeunes Hollandais, je crois, quelque chose comme ça. Il est chimiste, il ne connaît pas le néerlandais, il ne connaît pas l'allemand. Et on lui demande de faire ça. Donc il est totalement ignorant, en fait. Donc il ne sait pas comment faire. Donc en fait, il établit une méthode. Il fait des petits groupes, il ne peut même pas vraiment leur parler, parce qu'il ne parle pas la même langue. Il fait des petits groupes d'autonomie, etc. Donc il organise finalement un cadre pour que les jeunes gens travaillent entre eux. Et en fait, dans sa classe, ben, ils apprennent la langue beaucoup plus vite et beaucoup mieux que dans les classes avec des professeurs qui, eux, connaissent bien la langue, mais seraient dans une transmission plus verticale, en fait. Hein. Donc c'est un petit peu ça qui dit sur cette question de l'autonomisation et de l'échange par les pairs, en fait, entre pairs. En fait, hein. Mais attention, et ça je pense que c'est un point hyper important, c'est un énorme travail qu'il fait. C'est pas il arrive et puis ça marche tout seul. Hein. Il y a un travail, et c'est ça que décrit Jacques Rancière, un travail d'encadrement, d'organisation du cadre, en fait. Et du coup, je vais en venir à quelques, quelques exemples avant que je vous propose, parce qu'il va y avoir un exercice créatif autre, vous allez voir, qu'on va vous proposer tout à l'heure, mais je vous en dis plus. J'essaie d'écrire, bon, j'ai un petit peu du mal, j'essaie d'écrire plus. Dans mon site internet, j'ai un site internet, j'ai un petit espace sur la pédagogie, avec différents articles, vous voyez, il n'y en a pas encore beaucoup, j'espère qu'ils peuvent être utiles. Celui-là a pas mal tourné parmi les enseignants, l'écoute et le silence. C'est-à-dire, vous savez, c'est dans une classe, quand on dit bah, « j'ai besoin du silence », il faut qu'on m'écoute quoi, pour que je puisse transmettre ce que j'ai à transmettre. Donc je vais demander le silence. Mais vous savez comme moi que quand on demande le silence, on l'obtient pendant un temps assez court en fait. Et du coup, c'est finalement comment faire pour obtenir ce silence nécessaire. Bah, en fait, ce n'est pas demander aux autres de nous écouter, ce n'est pas leur demander de faire silence, c'est peut-être soi-même se mettre à leur écoute. Et le silence va venir de lui-même, en fait. Donc, moins on le demande et plus on l'obtient. Donc, c'est une méthode, hein, là, je vous le dis rapidement. Mais en tout cas, simplement, là, je vais vous indiquer quelques exemples, et notamment un processus de création artistique qui me semble utile à partager. Et vous pourrez trouver dans mon site internet pas mal de choses. Donc, par exemple, dans Action culturelle et pédagogique, vous avez plein d'exemples d'actions culturelles diverses et variées. Pas assez, j'en fais beaucoup plus que ce qu'il y a dans mon site, mais j'essaie au maximum de relater des choses. Et du coup, ça peut être aussi, moi je fais ça comme un espace de ressources, ça peut être aussi un endroit où vous pouvez éventuellement trouver des idées, voilà, à la fois à titre personnel, mais aussi des idées à proposer à des artistes. Parce que le côté... Ah bah ça tiens, c'était quelque chose qu'on avait fait avec Canopée 92. Le côté normatif, c'est-à-dire on impose quelque chose aux autres au lieu de leur laisser la place. C'est pas le propre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont cette problématique là aussi. Et c'est pas parce qu'on fait venir un artiste que comme par magie, ça va être hyper ouvert et que les enfants vont être libres et émancipés. Hein, pourquoi ? Parce que on peut être un artiste excellent, avoir de la difficulté en fait à se remettre en question soi-même, hein, et à recevoir quelque chose de l'autre. Hein. Donc je crois que les artistes eux aussi ont besoin d'être accompagnés, et que vous, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi accompagner les artistes. Et je crois que c'est hyper important. Et là-dessus, c'est une petite remarque méthodologique, mais partager les objectifs en amont, vraiment, entre partenaires, c'est très important, et souvent on ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on attend quoi de ça ? Et alors, je vais vous dire, parce que souvent, dans l'éducation artistique et culturelle, il y a de la production artistique. Et il va y avoir un résultat, on veut que ce soit bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on va le présenter aux tutelles qui ont financé le projet, par exemple. Donc on veut que ce soit bien. Mais du coup, on va rentrer dans une production, c'est-à-dire on va faire en sorte que ce soit bien, bien fait. Mais c'est très paradoxal tout ça, parce que finalement, bah, l'artiste ou l'intervenant va intervenir plus pour que ce soit qu'il y ait un beau résultat. Mais c'était quoi l'objectif ? C'était pas un objectif éducatif au départ ? Le projet artistique, c'est un outil pour l'éducation. On est dans le cadre de l'éducation. C'est pas de la production pour faire plaisir à des institutions. Et je peux vous dire, pour le pratiquer beaucoup, par exemple, là, je vous prends un exemple d'un atelier qui a eu lieu, et qui aura lieu d'ailleurs encore cette année, au musée de la Grande Guerre de Meaux, c'est un musée sur la Première Guerre mondiale, de réalisation de films dans le cadre de C'est mon patrimoine. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Plus votre création, elle va laisser la place aux enfants, et elle sera peut-être pas parfaite, ce sera peut-être pas à l'image de la qualité de ce que l'artiste peut produire, mais plus elle vient d'eux, et plus elle nous intéressera aussi. Parce que le truc bien fait, bien finalisé, excusez-moi du terme, il est chiant, en fait. Parce que on sent bien que s'il n'y a pas eu une place créative laissée aux enfants. Et c'est là où le rôle de l'artiste, souvent il y a un peu de confusion. L'artiste, on va le juger sur sa production dans un cadre pédagogique. Mais il est là dans un cadre pédagogique. Donc simplement, cette idée de partager les objectifs et de repositionner que l'objectif, il est pédagogique, l'objectif, c'est le travail que fait chaque personne, et c'est pas autre chose que ça, me semble-t-il. Mais justement, il faut, ça c'est mon point de vue, hein, mais il faut le partager, ça me semble très important. Alors, allez, je prends ce petit exemple. C'est mon patrimoine, c'est une proposition d'été dans les musées. Alors, l'idée, donc, musée Première Guerre mondiale, c'est proposé aux enfants de la ville de Meaux qui sont pour la plupart issus d'une immigration ancienne, mais quand même issus d'une immigration. Le projet était le suivant. Un artiste, en l'occurrence c'était moi et puis une médiatrice, l'été prochain ce sera quelqu'un d'autre que moi, mais on va dans une structure de loisirs présenter des objets de la Première Guerre mondiale qu'on peut toucher, etc. Puis on va au musée, visiter le musée, on visite le musée, et ensuite dans une salle comme ça on a imprimé tout un corpus de plein d'objets et de choses qui sont dans le musée. D'accord. Et à partir de ce corpus, les enfants se mettent par petits groupes, et puis ils vont. Attendez, les photos sont pas forcément dans le bon ordre. Et puis ils vont découper dans tout ça des personnages, des décors, etc., etc. Et ils vont imaginer une histoire. Et là, il y a une petite caméra. C'est la même chose que cette petite caméra là, vous voyez. Et ce qui fait que on va. Là, moi, je l'ai pas fait, mais on pourrait filmer. Qui est filmé, et en fait c'est du découpage animé, vous voyez, ils vont raconter leur histoire, comme ça ils vont faire bouger les choses en tournée, en plan séquence, donc c'est du film d'animation mais fait en direct, et on peut le refaire autant de fois que nécessaire. Puis donc voilà, on les voit en train de faire, il faut qu'ils collaborent, ils se débrouillent, donc en fait on a l'outil, il est simple, c'est la visite d'un musée, donc voilà, ensuite c'est des images, on prend ce qu'on veut. Chacun est autonome, raconte un petit peu l'histoire. S'ils ont besoin, on peut les aider, mais plus ils seront autonomes et mieux ce sera. Et puis ensuite, comme ils voient le résultat, ils comprennent tout de suite et on accompagne pour appuyer sur le bouton pour filmer, vous voyez, mais pas tellement plus que ça. Et plus ils vont se débrouiller par eux-mêmes, mieux ce sera. Parce qu'on pourrait dire, c'est comme ci, comme ça qu'il faut découper. Non, ils découpent comme ils veulent, en fait. Et du coup, il y en a qui vont faire des personnages qui bougent, il y en a qui vont faire des tableaux les uns après les autres, chacun va aussi inventer sa technique. Donc si vous voulez, le cadre, et moi vous l'avez compris, je rejoins beaucoup Freinet, c'est-à-dire que l'outil qu'on amène, l'outil c'est un cadre, et avec cet outil, finalement on va s'exprimer chacun. Donc on assure par le cadre une confiance qui est absolument nécessaire pour que les gens soient en confiance et sachent qu'il y aura un résultat. Et à la fin, dans la salle, on regarde les films. Et en collectif, c'était un atelier un peu plus, ça peut être des films muets, mais là, il y avait aussi l'écriture d'un texte, l'enregistrement d'un texte sur le film, et en collectif, le collectif, il y avait un deuxième enregistrement, faisait les bruitages et la musique, vous voyez, donc qu'on rajoutait, et puis à la toute fin, vous voyez, c'est pas tout à fait dans le bon ordre, les photos, chaque film, il y a eu une quarantaine de films faits donc sur 3 semaines l'année dernière, l'été dernier. Chaque film était derrière un QR code et les QR codes ont été disposés dans le musée. Alors c'était que pendant l'été, mais en fait il y en a encore aujourd'hui certains qui sont restés des QR codes, donc les gens peuvent voir des films. Donc finalement ça va enrichir la médiation du musée. Et puis il y a eu un moment, dans l'auditorium du musée, une restitution où tous les enfants qui avaient participé sont venus pour se présenter les films les uns aux autres, et puis il y avait un petit peu l'institution. La question de la finalité, pour moi, elle est essentielle, c'est-à-dire que dès le départ, ces enfants leur a dit, le film que vous allez faire, il va être montré en public, et il va être diffusé dans le musée. Et c'est vrai que quand il y a de cette finalité, c'est là qu'on commence à se mettre des injonctions de production. Il faut que ce soit bien, parce que des gens vont le voir. Mais en fait, on va leur donner à eux cette responsabilité. Oui, ça va être diffusé. Et Et il y a une chose importante, c'est que nous, à la fin de chaque journée, il y a un moment de projection. Vous voyez, dans la salle elle-même, entre nous, on regarde les films qui ont été faits. Le moment de la projection, le moment de la confrontation au regard de l'autre, il est essentiel. Parce que, vous le savez, dans le domaine justement de la création, on se risque, on n'est pas sûr. Et même, il y a une chose dont on est généralement assez sûr, c'est que ce qu'on fait, c'est totalement nul, quoi. C'est rare, c'est très très rare, les personnes, en tout cas moi c'est pas mon cas, et qui sont sûres d'elles et qui sont sûres que ce qu'elles ont fait, qui est inattendu, inhabituel parce que c'est créatif, et ben justement c'est tout le concept de l'innovation, hein. Vous le savez, quand on fait quelque chose de nouveau, ben, au départ c'est mal vu en fait, hein, parce qu'on n'a pas encore de critères de jugement. Donc soi-même on est le plus terrible juge, hein, bien sûr, de soi-même. Et le fait de prendre le temps de montrer aux autres, vu qu'on est dans un contexte bienveillant, enfin, je veux dire, on est là, on est en train de faire un truc ensemble, il n'y a pas de problème avec le contexte, tout le monde est... Et l'intervenant aussi, il fait des films, lui aussi, il se confronte, moi aussi, je participe, j'en fais aussi, c'est-à-dire que je m'impose à moi aussi ce cadre, eh bien, comme on est donc dans un cadre qui est bienveillant, de fait, vous avez compris le système, eh bien... Quand c'est son propre film qui va passer devant les autres, là je parle de film, hein, mais ça pourrait être autre chose, on a de super peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience, mais c'est terrible. On a envie de se mettre sous la terre, quoi, tellement on trouve que c'est nul ce qu'on a fait. Et étonnamment, ben, les autres, ils ne crachent pas dessus, vous voyez. Même peut-être, on sent que ça les intéresse, ça nous étonne beaucoup. Mais... c'est le regard des autres qui va me légitimer la valeur de ce que j'ai fait. Moi-même tout seul, je ne peux pas le faire, en fait. Et souvent, il va y avoir un interventionnisme de l'artiste, on va dire, bah, comme ça, ça va valoriser les jeunes. Mais en fait, ça ne valorise personne. C'est-à-dire que c'est justement, si l'artiste intervient et qu'il fait un bel objet esthétique, c'est plus le mien. Donc en fait, c'est lui, j'ai été instrumentalisé, peut-être mes idées ont été utilisées par quelqu'un d'autre, mais c'est pas ma production, c'est la sienne en fait. Et du coup, ça me valorise pas du tout, ça m'écrase en fait, malheureusement. Et il y a que des bonnes intentions là-dedans, hein. C'est pas du tout pour remettre en question la bonne intention, mais c'est juste pour remettre l'objectif et mettre aussi à l'endroit de la création artistique la pédagogie, le processus pédagogique, c'est-à-dire le processus d'émancipation, c'est-à-dire d'avoir confiance aussi en soi. Et le regard des autres, il est essentiel pour construire la confiance en soi. Donc c'est pour cette raison que moi, personnellement, hein, dans le cadre de moments de création, il y a la création elle-même, l'acte de création, mais le moment de regard ensemble, j'y donne toujours du temps. Il ne faut pas le faire vite fait, il faut prendre le temps du regard. En fait, c'est faire et regarder. Et souvent, on est tellement focalisé sur le faire qu'on n'a jamais le temps de vraiment regarder. Voyez. Et c'est pour cette raison-là que, comme c'est un cadre pédagogique, enfin, en l'occurrence, là, ce n'était pas à l'école, mais au fond, c'est un peu le même type de cadre, j'utilise le plan séquence, c'est-à-dire qu'on tourne son truc, on met le titre dedans, hein, on en prépare le titre, on le met au début, on met son générique de fin, vous voyez, tout est fait en direct. Et du coup, eh ben, il faut le refaire plusieurs fois, c'est très collectif, donc il y a quelque chose de très investi aussi au niveau du corps. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on peut le regarder tout de suite. On peut dire, ah ouais, mais ce serait mieux de faire du montage. Ouais, ce serait peut-être mieux dans l'absolu pour une production. Mais n'oublions pas que notre objectif, il est pédagogique. Donc, mon outil, il faut qu'il soit adapté à l'objectif. C'est pas pour dire, il faut faire tous les films du monde en plan séquence. Non, c'est pas ça que je veux dire, vous voyez. Mais simplement avoir conscience de mon cadre et de mes objectifs. Et donc, je préfère qu'on aille plus vite à créer et qu'on ait le temps de regarder. Donc moi, dans un atelier, je peux vous dire, j'ai tout le temps l'œil sur la montre, tout le temps, pour qu'il reste suffisamment de temps pour être tranquille et regarder. Et quand vous êtes l'animateur, ben, par exemple, les moments où ils font leur film, ils découpent leurs trucs, etc. Si vous avez bien géré votre cadre, ils sont autonomes. Donc en fait, pendant que vous n'avez rien à faire, vous. Alors ça, c'est compliqué. Parce qu'on dit, j'ai rien à faire. Mais moins vous avez de choses à faire, mieux vous avez travaillé. C'est-à-dire que ça veut dire que vous avez autonomisé les gens. Et en fait, ce que vous avez à faire, enfin ce que j'ai à faire, c'est au moment où on regarde ensemble, c'est d'être vraiment attentif au film, d'être vraiment le spectateur. Parce que quand on est dans la place du pouvoir, on a un impact énorme en fait sur les gens. Et du coup, recevoir vraiment leur film, être cool, être content, avoir le temps soi-même, se sentir détendu. Mais c'est ça le travail. Et du coup, pouvoir, si j'ai rien à faire avant, eh bien, c'est le temps de me détendre, justement de vérifier, d'organiser un petit peu le temps. Et du coup, je vais être quelqu'un d'attentif qui est capable de recevoir la production de l'autre. Et vu le pouvoir symbolique que j'ai sur les autres personnes, c'est essentiel, en fait. Et donc, du coup, vous avez compris cette idée. Mais ce qui est complexe là-dedans, et c'est tout hyper complexe dans le processus d'émancipation, on donne un cadre, on tient un cadre, mais ce qui se passe à l'intérieur du cadre, ça ne nous appartient plus. On perd le pouvoir, en fait. Et ça, mais perdre le pouvoir, c'est hyper riche, parce que ça veut dire se mettre en capacité d'être enrichi par les autres. Et oui, et vous le savez aussi bien que moi, et même sans doute mieux que moi, les enfants, ils nous enrichissent. Vous allez me dire, oh là là, ça c'est super démago de dire ça. Mais non, c'est la vérité, si vous voulez. Mais ils nous enrichissent si on leur laisse la place de s'exprimer, en fait. Et c'est, à mon avis, en tout cas pour moi, le plus difficile. Recevoir de l'autre, et que ce soit un enfant ou n'importe qui d'autre, c'est le plus difficile. Parce que justement, il va falloir que je résiste à mes a priori, etc., etc. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose, il est 10h20, je vous propose quelque chose, une création que vous allez faire ce midi. Je vous explique. Je vous explique ce que je vous propose de faire. On a collecté un certain nombre de mots tout à l'heure, d'accord ? Voilà, ils sont là, c'est les mots. D'ailleurs, je vous le dis, je sais pas si je vous le ferai faire, mais en fait, je pouvais étendre cet exercice. En fait, j'aurais pu, je vous le dis, même si on ne le fait pas, j'aurais pu vous demander ensuite à chaque mot l'émotion que vous aviez ressentie, je l'aurais mise à côté, et j'aurais pu aussi vous demander votre prénom ou vos prénoms, parce que la question de la reconnaissance, en fait, de son identité, c'est absolument essentiel. Et moi, quand je commence avec un groupe d'enfants que je ne connais pas, j'utilise un mind mapping comme ça, le mind mapping, vous connaissez sans doute, c'est cette technique-là, ces outils-là. D'ailleurs, tiens, je fais une mini-incise, j'utilise le mind mapping et j'écris les prénoms des gens. Et bien, il y a des prénoms, c'est pas si simple de les écrire, on fait des fautes. Et du coup, c'est les enfants qui corrigent sur leur propre prénom, et moi je prends le temps de corriger et de bien orthographier le nom de chacun. Ça paraît bête, mais en fait, ça, c'est une institution. J'institue par l'écrit quelque chose. Et le simple fait d'écrire les prénoms d'un groupe de personnes et de prendre le temps de le faire bien, et ça, c'est un document qu'on peut imprimer, etc., eh bien, je donne une place à l'autre, je lui dis, tu es quelqu'un d'important et ton prénom, il est important et je l'orthographie comme il faut et c'est toi qui me corrige si nécessaire. Le mind mapping, ce concept, les caractéristiques, comme on dit en français, c'est un concept qui a été formalisé comme tel par un psychologue anglais qui s'appelle Tony Buzan dans les années 70. Et en fait, au départ, c'était fait à la main, en fait. C'était fait pour l'apprentissage des leçons scolaires, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, par exemple, une leçon sur Henri IV, par exemple. Vous écrivez Henri IV au milieu et vous faites un petit dessin. Là, je ne le fais pas du tout, mais un petit dessin, la trombine d'Henri IV, vous voyez. Donc, il y a le texte et le dessin. Et en termes de mémorisation, c'est très puissant, ça. Et ensuite, on fait, l'époque, les arts, la culture, la politique, vous voyez, et à chaque fois on fait des branches, et ensuite on va donc sur les arts, à l'époque d'Henri IV, et bien hop hop, on va faire des branches, et à chaque terme qu'on met, on fait un petit dessin. Et vous faites ça, du coup c'est la pensée arborescente en fait, parce que notre pensée elle est arborescente, hein, ce sont des connexions, des choses qui se relient les unes aux autres. Eh bien, si vous écrivez, vous lisez dans vos bouquins, etc., et vous écrivez comme ça, de façon arborescente, en faisant un petit dessin à chaque fois, ben après, votre leçon, vous la savez pour toute votre vie, en fait. Elle est inscrite en vous, à tout jamais, en fait, hein, parce que vous avez eu cet acte-là. Donc, c'est juste pour dire que cet outil, il vient de là. Alors, voilà, j'aurais pu vous proposer ça, de collecter ça, et j'aurais aussi pu vous proposer de refermer les yeux, enfin, de regarder l'espace, d'imaginer un endroit où vous mettez votre œuvre là, que vous avez créée tout à l'heure avec le mot, et de l'imaginer accrochée sur tel pilier, voilà, ou en dessous de telle fenêtre, et pour l'inscrire encore plus dans une expérience aussi dans le lieu. Voilà, je vous dis que j'aurais pu faire ça, on ne l'a pas fait, c'est pas grave. L'idée, c'est de transmettre des outils, hein, c'est pas forcément de tout faire, là aussi. Moi, c'est quoi mon objectif? C'est de vous transmettre des outils, c'est ça mon essentiel. Enfin, de partager des outils. C'est Tim Ingold qui m'engueulerait. Non, la transmission, c'est pas du tout ça, c'est une expérience commune, c'est pas de la pédagogie, l'éducation, c'est pas de la transmission, c'est de l'expérience partagée. Et finalement, chacun va apprendre une chose singulière. On sait pas ce que l'autre apprend, en fait. La seule chose qu'on peut évaluer, c'est nous-mêmes, le cadre qu'on a posé. Pardon, hein, je bats en brèche un peu, mais moi je me situe à l'endroit de l'éducation artistique et culturelle. Bien sûr qu'il y a des besoins normatifs différents, qui peuvent être questionnés d'ailleurs, mais de toute façon ils vous sont imposés. Donc voilà, c'est comme ça. Mais dans des espaces autres, où il y a l'art et la culture, eh bien ce qu'on peut évaluer, c'est la place qu'on a donnée aux autres. Mais ce que chacun a appris, on n'en sait rien. Parce que si ça se trouve, ça ressortira en lui des années plus tard. On n'en sait rien, mais nous-mêmes, on peut s'évaluer. Est-ce que j'ai été suffisamment à l'écoute, etc. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, une notion que vous connaissez peut-être, que vous pourrez trouver aussi sur mon site, ce qu'on appelle les droits culturels. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler des droits culturels. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment... quelque chose d'important. Je ne vais pas trop les commenter, mais c'est les droits qu'on donne aux personnes en fait, auxquelles on s'adresse, hein, droit à son identité, etc. Alors, la proposition est la suivante. On va faire des petites équipes de 3 ou 4. Donc, je vais vous laisser simplement vous... Là, j'ai bientôt fini. Je vais vous laisser vous coopter avec vos voisins, hein, d'accord? Donc, par exemple, c'est vous quatre, par exemple, vous voyez? Donc, faites des petites équipes. Chacune de ces équipes... Donc, voilà, je termine et ensuite, je vous laisse 2 minutes pour le faire. Vous allez choisir un de ces mots ou autre chose, si jamais vous avez envie de faire une petite phrase, en tout cas. Mais je pense qu'un mot, c'est pas mal. Par exemple, j'en sais rien, le mot acculturation, par exemple, disons ce mot-là. Vous allez choisir ce mot et vous allez, ce midi, pendant l'heure du midi, créer ensemble une photo dont ce mot sera la légende. D'accord ? Souvent, on fait l'inverse. Dans l'éducation aux médias et à l'information, on prend une image et on change la légende et on voit ce que ça change dans le sens. C'est d'ailleurs très sympa, hein, comme exercice à faire. C'est très, très fort et très simple, mais très marrant. Et là, c'est l'inverse. Vous avez la légende et vous créez une image. Alors, ces images, je vais vous écrire mon adresse email. Je vous le fais maintenant. Vous allez me les envoyer avec votre téléphone par email, à cet email-là. Et pendant l'après-midi, vous allez m'envoyer l'image et vous mettez vos prénoms aussi. Vous mettez la légende, vos prénoms et l'image, vous m'envoyez ça par email. Et on va avec Julie, cet après-midi, mettre en ligne tout ça. Pourquoi je vous propose, et du coup à 16h30, on les verra, et on vous donnera un QR code qui permettra d'accéder à la fois à cette partie, mais aussi à plein d'autres ressources de la journée. Voilà. Pourquoi ces photos légendées? Qu'est-ce que je vous propose de faire? Là, je vous ai juste donné la technique, en fait. Ce que je vous propose, c'est que ces photos soient des outils pédagogiques. Comment ça, des outils pédagogiques? Imaginez que cette photo, si vous la montrez à quelqu'un, eh bien, ça suscite l'étonnement, la réflexion, la controverse, la discussion autour de, en gros, créativité et esprit critique. Hein, c'est un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que le but de cette photo, c'est pour ça qu'on parle d'outils pédagogiques, c'est de susciter une réaction, en fait. Et du coup, une réflexion. Vous voyez, d'inviter les gens à réfléchir. Donc du coup, c'est pas forcément une photo qui illustre votre terme. Ça peut être justement par l'opposition, par l'humour, par la provocation. Je veux dire, ça va, on a le droit, hein, on peut jouer, hein, on est là pour jouer et pour dépasser aussi nos limites, enfin pour oser des choses, peut-être parfois des choses choquantes, pourquoi, enfin, je veux pas vous influencer dans ce sens-là, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à tenter des choses. Et l'idée, et c'est pour ça que ce sera des outils, et ces outils seront toujours accessibles, vous pourrez les télécharger après, voilà. C'est que ces photos puissent être utilisées, pourquoi pas en classe, et paf, on en montre une, et on voit ce que ça suscite, et on lance une discussion à partir de ça. Donc voilà, ça peut sembler très ambitieux, mais moi je vous fais confiance, je veux dire, on a chacune et chacun tellement d'expériences et d'idées, et puis en plus à plusieurs. Alors c'est quoi ces photos? Ça peut être juste des objets filmés, mis en scène, ça peut être des personnages, ça peut être dans la ville, enfin, c'est ce que vous voulez, hein. Et moi, je vous donne, il y a ces mots-là, mais ça peut aller aussi un petit peu plus loin que ces mots-là, si vous voulez. Si vous avez envie d'étendre un petit peu et que ce soit une mini-phrase, vous avez le droit, hein. C'est pas forcément votre mot, de toute façon, il va falloir que vous choisissiez, donc 3-4. Ben voilà, il est 10h31. Je pense que c'est bien. Donc, je vous laisse juste une minute pour choisir votre groupe, d'accord? Là, votre équipe plutôt. Vraiment, faites-le. Si jamais vous êtes dans aucune équipe, ben vous rassemblez avec une équipe. C'est ce midi, hein. C'est pas trop petit là? C'est trop petit? Attendez, je... Je vous l'ai fait bouger doucement. Thank you. Alors, est-ce que vos équipes sont faites? Oui. On va passer à la suite. Le moment de création, ce sera ce midi, hein, donc voilà. Mais oui, là, vous êtes partis déjà. C'est alors, très bien. Désolé. Ouais. Oui, moi, j'ai tiré, je termine.
S'il vous plaît. Donc, je remercie. Ah, je vois que ça a lancé,
c'est l'émancipation, c'est l'autonomie, ça nous échappe, c'est parfait.
C'est normal. Merci Benoît d'avoir partagé avec nous ton expérience, tes conseils, tes lectures.
Merci, merci beaucoup. Merci. Il y a pas de